3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Albert Stotland Rudy est un producteur de films qui est né à Montréal, au Québec, le 28 mars 1930. Né dans une famille juive, Rudy sera élevé dans la ville de New York, puis à Miami Beach, en Floride. Il fréquentera le Brooklyn Technical High School avant d'obtenir une bourse lui permettant d'étudier le génie chimique au City College de New York. En 1956, il est diplômé de l'École d'architecture de l'Université de la Californie du Sud. Rudy a ensuite travaillé pour une entreprise de construction au New Jersey avant de réaliser un court-métrage chez la compagnie Warner Brothers suite à une rencontre fortuite avec le chef des studios, Jack L. Warner. Par la suite, le Québécois deviendra programmeur stagiaire à la Rand Corporation à Santa Monica, en Californie, mais le jeune homme décidera alors de revenir dans le monde du divertissement, ce dernier travaillant comme scénariste pour la télévision au studio de la Universal Pictures. Puis, au début des années 1960, il travaillera à titre de producteur pour Marlon Brando Sr., le père de l'acteur légendaire Marlon Brando, sur le long-métrage Wild Seed, qui sortira en salle en 1965. Ce film devait à l'origine mettre en vedette Brando fils, mais l'acteur fut jugé trop vieux pour le rôle qui sera alors remis à l'acteur Michael Parks. Wild Seed sera tourné en 24 jours et Rudy dut écrire deux fins différentes pour le film, l'une avec les amants de l'histoire se séparant et l'autre dans lequel ils resteront ensemble. Une fois Wild Seed terminé, Rudy co-créera la série télé Hogan's Heroes, qui aura un succès critique et commercial sur la chaîne de télévision CBS durant plus de 6 saisons, soit de 1965 jusqu'en 1971. Alors que le sitcom arrivait à sa fin, Rudy décidera de revenir au cinéma, produisant deux comédies, soit Little Fuss and Big I'll See, qui sortira en salle en 1970, et Making It, en 1971. C'est alors que l'homme, dans le début de la quarantaine, sera embauché par le vice-président des studios Paramount Pictures, Robert Evans, à titre de producteur sur le drame policier The Godfather, une adaptation du roman à succès de l'auteur Mario Puzo, ce dernier étant également engagé pour écrire le scénario de l'adaptation cinématographique avec l'aide du réalisateur Francis Ford Coppola. The Godfather sera un énorme succès tant au niveau commercial que critique, et sera non seulement considéré comme l'un des meilleurs films jamais réalisés, mais deviendra également un point de repère pour le film de gangster. The Godfather sera nominé pour 11 Oscars et en rapportera 3, dont le tout premier de la jeune carrière de Rudy à titre de producteur pour le meilleur film de l'année, son second étant en 2005 pour le film Million Dollar Baby, réalisé par Clint Eastwood. Durant sa carrière, Rudy produira les films The Longest Yard, Coonskin, les trois films de la franchise Cannonball Run, Megaforce, Dead Hunt, Lassiter, Farewell to the King, Impulse, Ladybugs, Bad Girls, The Scout, Heaven's Prisoner et plusieurs autres productions. Au niveau de la télévision, nous lui devrons How the West Was Won, qui sera diffusé sur ABC de 1977 jusqu'en 1979, et surtout, la série mettant à vedette l'acteur Chuck Norris, Walker Texas Ranger, série qui sera diffusée sur CBS de 1993 jusqu'en 2001. Rudy fut à l'origine marié et divorcé à Françoise Rudy avant d'épouser Wanda McDaniel, avec qui il aura deux enfants, John Rudy et Alexandra Rudy, cette dernière devenant en 2015 coprésidente de sa compagnie, Albert S. Rudy Productions, laissant entrevoir un avenir pour son entreprise suite à un éventuel départ d'Albert, l'homme étant âgé en 2022 de 92 ans. Donc, faites une visite au Vatican avant de vous retrouver de nouveau dans les studios de la Paramount Pictures durant les années 1970, alors que je vous parlerai dans cette émission du dernier long-métrage de la saga du Godfather, réalisé en 1990 par le metteur en scène Francis Ford Coppola, avant d'assister à l'expérience de tournage d'Albert Rudy sur le film original de cette franchise magistrale à travers les 10 épisodes de la série limitée intitulée The Offer, qui sera diffusée en 2022 sur Paramount+, série qui sera basée sur les mémoires de ce producteur québécois.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Oh, the time is now, the time is here. Now's the time for a bite of cheer. A tasty light where the price is right. Well, look at here, you'll dig this sight. The moment's handy for a piece of candy. Just name your brand, they're all so grand. Hey, what do you think of an ice cool drink? Or a big box filled with a popcorn thrill. Let your taste buds mint with an ice cream treat. Refresh yourselves, it's time to eat. So come on, folks, let's join the band as we all head for the refreshment stand.
Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted.
What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection.
The coming attraction.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Two epics.
It's not personal, sir. It's strictly business.
Two classics.
No! Run!
Two films that set new standards for motion picture excellence.
Don't ever take sides with anyone against the family again.
21 Academy nominations and 9 awards, including 2 for Best Picture.
I know it was you, Fredo.
The Godfather. And now, Paramount Pictures presents the continuation of Francis Ford Coppola and Mario Puzo's legendary saga.
I betrayed my wife. I betrayed myself. I killed men. And I ordered men to be killed. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my mother's son. I killed my father's son. We've sold the casinos. All businesses having to do with gambling. We have no interests or investments in anything illegitimate.
Don Corleone. The Corleone family. Partners with the Pope. They may cry blasphemy.
This is business.
I know you're into banks and Wall Street, but everyone knows you're the final word. You're like the Supreme Court. All I want to do is protect you from these guys, and your lawyers can't do that. I said we make them dead. You give me the order, I'll take care of it.
I command this family, right or wrong.
You know, Michael, now that you're so respectable, I think you're more dangerous than you ever were.
Our true enemy has not yet shown his face. If every drug pusher in this room were to drop dead, I would be the only one alive.
Well, you tell him for me, he can live or he can die, you understand?
Will you shut up? Will you shut up?
You love me.
You're the only one left in this family with my father's strength.
I'm a Corleone.
You can save the Corleone family. I'll help you.
The ultimate story of family.
Come at me as you will.
And loyalty.
Give up her daughter.
Power. And violence.
Just when I thought I was out, they pull me back in.
The Godfather, Part 3.
When they come, they'll come at what you love.
The Godfather Part 3, ou Le Parrain, Partie 3, est un drame policier qui est distribué par les studios Paramount Pictures le 2 décembre 1990. Ce film américain d'une durée de 162 minutes coûtera plus de 54 millions de dollars à produire et amassera plus de 136,9 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Francis Ford Coppola, lui qui nous a donné les films Gardens of Stone, Jack et Apocalypse Now. Du côté de la production, on y retrouve le producteur américain Francis Ford Coppola, lui qui avait produit les films The Cotton Club et One from the Heart. Et finalement, au niveau de la scénarisation, on y retrouve de nouveau Francis Ford Coppola, ce scénariste américain qui avait écrit les scénarios de Is Paris Burning, New York Stories et The Rainmaker, aux côtés de Mario Puzo, ce scénariste américain qui a travaillé sur le scénario des films Earthquake, The Fortunate Pilgrim et A Time to Die. Dans la distribution, on y retrouve Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Ellie Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda et Sofia Coppola. En essayant de légitimer ses relations d'affaires à New York et en Italie en 1979, un vieillissant Don d'une puissante famille du crime organisé cherche à se faire pardonner de ses péchés tout en prenant son neveu sous son aile. Suite au succès des deux premiers films de la saga The Godfather, le réalisateur-producteur Francis Ford Coppola croyait que sa saga de la famille Corleone était maintenant terminée et ce dernier n'avait nullement l'intention de revisiter cet univers malgré la pression constante de la Paramount pour la réalisation d'un troisième chapitre. D'ailleurs, cette pression débutera dès le printemps 1977, soit 3 ans après la sortie de The Godfather Part II. Le réalisateur Richard Brooke sera alors convoqué à une réunion secrète dans les bureaux de la Paramount où il recevra un traitement de 53 pages intitulé The Godfather 3. Suite à cette rencontre, Brooks embauchera le scénariste Alexander Jacobs pour écrire cette nouvelle histoire qui devait se dérouler un quart de siècle après The Godfather Part II. Alors que le scénario était en écriture, le président de la Paramount Pictures, Michael Eisner, contactera le producteur Don Simpson pour que ce dernier s'occupe de gérer ce projet. Malheureusement pour Eisner, son projet d'un troisième chapitre des aventures de la famille Corleone, qui devait mettre en vedette le personnage d'Anthony, jeune fils de Michael Corleone, n'attirera pas vraiment l'attention des exécutifs de la Paramount, et ce, malgré qu'en 1978, il fut annoncé que l'écrivain Mario Puzo, dont le roman était à la base des deux premiers longs-métrages, travaillait sur un traitement pour servir de base à l'écriture d'un nouveau scénario. En effet, Puzo s'était vu offrir la modique somme de plus de 250 000 $ et 5 % des recettes du film pour son travail. À cette époque, la Paramount désirait offrir le rôle d'Anthony à l'acteur John Travolta avant de se retourner vers l'acteur Eric Roberts. Cependant, le projet tombera dans l'oubli jusqu'en août 1982. Ce sera à cette époque que la Paramount donnera près de 72 000 $ au scénariste Vincent Patrick pour écrire un nouveau traitement. Patrick présentera alors un récit plus violent que ses prédécesseurs, tuant les personnages de Michael Corleone et Tom Hagen avant le générique d'ouverture. Dan Curtis fut alors embauché pour mettre en image le scénario qui opposait Anthony au fils de Santino, le frère décédé de Michael. Cependant, le projet sera de nouveau arrêté lorsque Curtis quittera la production pour produire et réaliser la télésérie The Winds of War en 1983. Puis, en octobre 1985, ce sera Nick Marino et un jeune directeur de production travaillant pour la Paramount, Thomas Lee Wright, qui écriront une toute nouvelle version du scénario pour The Godfather Part III. Les deux hommes consacreront plus de 10 mois à l'écriture de cette nouvelle histoire, vendant à la Paramount leur scénario pour la modique somme de 35 000 $ avec une promesse de 100 000 $ supplémentaires si le script était produit. 4 jours après la soumission du scénario de Marino et Wright, le nouveau PDG de la Paramount, Frank Mancuso Sr., décidera de mettre de côté le nouveau script et d'aller dans une direction totalement différente. 11 ans après la sortie de The Godfather Part II, plus de 800 000 $ avaient déjà été investis dans ce troisième volet de la franchise qui ne semblait alors aller nulle part. Pendant ce temps, le studio de production de Francis Ford Coppola, Zoetrope, était au bord de la faillite et le réalisateur cherchait à récupérer ses pertes avec des films pour adolescents tels que The Outsiders et Rumblefish. Cependant, après de vastes complications durant la production de The Cotton Club avec le producteur Robert Evans et l'échec au box-office de son long-métrage One from the Heart, Coppola deviendra un homme marqué à Hollywood. Même Evans pensait que les échecs de Coppola étaient si irréparables qu'il était impensable pour lui que Paramount ne le recontacte comme metteur en scène pour la réalisation de The Godfather 3 et avait même opté pour un traitement d'un écrivain anonyme afin de produire le film de manière indépendante. Mais à la fin de 1985, Frank Mancuso Sr. reprendra personnellement le projet et profitera des difficultés financières de Coppola pour négocier le retour de ce dernier. Ce sera au printemps de 1986 que 5 vrais chefs de la mafia seront inculpés par un tribunal de New York remettant à la une des médias la question du crime organisé italien. Déterminés à capitaliser sur la publicité et à mettre Godfather 3 en développement, Mancuso obtiendra de nouveau la participation de Mario Puzo pour l'écriture du scénario, geste qui finira par attirer Coppola sur le projet. En octobre 1986, Puzo livra un scénario complet à la Paramount, mais Mancuso demandera alors à Puzo d'écrire un autre scénario, cette fois-ci basé sur un traitement approuvé par un journaliste du New York Times, Nicholas Gage. Cette version sera une copie conforme du Godfather Part 2 avec des flashbacks sur l'Italie des années 30, tout en jetant un regard sur la famille Corleone d'aujourd'hui, dans lequel le fils de Vito, Michael, devait se battre avec d'autres familles pour le contrôle du cartel de la drogue. Près d'un an après la fin de l'écriture de Puzo et Gage, Mancuso réussira à convaincre l'actrice Talia Shire, sœur de Coppola, de remettre le scénario au cinéaste chez lui à Napa Valley, en Californie. Coppola ne sera vraiment pas impressionné par le script et décidera alors d'écrire le sien. Cédant aux pressions, c'est à ce moment que Coppola signera un contrat avec la Paramount pour la réalisation et la co-écriture du troisième film avec Puzo pour un salaire de 5 millions de dollars et 15 % des bénéfices du film, tout en ayant carte blanche sur ce projet, éloignant ainsi tout problème avec les studios durant la production du long-métrage. Mancuso acceptera et Coppola débutera alors l'écriture en compagnie de Puzo en février 1989. Entre 6 et 8 semaines seront nécessaires aux deux hommes pour l'écriture, qui subira des réécritures constantes durant toute la production. « The Death of Michael Corleone » sera le titre désiré pour le film, mais la Paramount refusera, forçant ainsi Coppola à y aller avec le simple titre de « The Godfather Part 3 ». Du côté de la distribution, Al Pacino, Diane Keaton et Talia Shire reprendront leur rôle des deux premiers films. Cependant, l'acteur Robert Duvall refusera de participer à moins qu'il ne reçoive un salaire comparable à celui de Pacino, ce dernier recevant plus de 4 fois le montant offert à Duvall. Coppola dut alors réécrire le scénario pour dépeindre le personnage de Tom Hagen comme étant mort avant le début de l'histoire, écrira le personnage de B.J. Harrison pour prendre sa place, personnage qui sera alors interprété par l'acteur George Hamilton. Pour le rôle de Mary, la fille de Michael Corleone, ce sera la chanteuse populaire Madonna qui sera approchée pour le rôle. Cependant, Madonna exigera un salaire de 1 million de dollars pour une semaine de travail, ce qui forcera les producteurs à trouver quelqu'un d'autre. Julia Roberts obtiendra le rôle, mais dut se retirer du projet à cause d'un conflit d'horaire, forçant alors l'embauche de l'actrice Winona Ryder. À la mi-octobre 1989, Andy Garcia sera choisi pour le rôle de Vincent, alors que Frank D'Ambrosio sera sélectionné parmi plus de 1000 chanteurs pour interpréter le rôle d'Anthony. Le tournage devait débuter le 15 novembre 1989, mais sera finalement repoussé de plus de 12 jours et débutera le 27 novembre sous le titre « The Godfather, The Story Continues ». Les 6 premières semaines de tournage se situeront au studio Cinecittà, à Rome, en Italie, où seront filmées des scènes d'intérieur se déroulant dans l'appartement de Michael à New York, ainsi que toutes les séquences se situant dans une suite d'hôtels à Atlantic City. Les emplacements extérieurs romains comprenaient le Palazzo de Giustizia, la Banque du Vatican, le Castello di Longhesa et Santa Maria della Quercia, une église vieille de 300 ans. La production à Rome avait initialement été retardée en raison du travail de Winona Ryder sur le film Mermaid, dans lequel cette dernière avait un rôle principal aux côtés de Cher. Lorsque Ryder arrivera à Rome 2 jours après avoir terminé son travail sur Mermaid dans le Massachusetts, celle-ci s'évanouira dans sa chambre d'hôtel à son arrivée et dut se retirer de la production après qu'un médecin lui ait diagnostiqué un épuisement complet. Désespérés de remplacer l'actrice, les producteurs reconsidéreront de nouveau Madonna avant d'ouvrir des discussions avec les actrices Annabella Sciorra et Laura San Giacomo comme alternative possible. Cependant, Coppola embauchera sa propre fille, Sofia Coppola, alors âgée de 19 ans, une actrice novice qui était apparue comme l'enfant baptisé à la fin du premier Godfather en 1972. Le réalisateur expliquera sa décision en prétendant qu'il avait basé l'écriture du personnage de la fille de Michael Corleone sur sa propre fille, faisant d'elle un choix des plus naturels. Après 3 semaines d'arrêt, la production reprendra de nouveau, mais 2 mois après avoir débuté son tournage, Coppola devra se mettre sous la protection de la faillite, due principalement à l'échec de son film One from the Heart, qu'il avait produit à l'aide de son studio Zotropée. En effet, le réalisateur-producteur devait de fortes sommes d'argent envers divers créanciers, en plus de devoir plus de 6,2 millions de dollars à Orient Pictures, qui avait distribué alors The Cotton Club. Quatre semaines après l'annonce de la faillite de Coppola, la production de The Godfather Part 3 se déplacera en Sicile, puis en Italie, à la Villa Farnese à Caprarola, avant de retourner à New York et à Atlantic City, où certaines scènes seront tournées au casino Trump Castle. Durant la production, Al Pacino et Diane Keaton, qui avaient eu une relation amoureuse pendant plusieurs années, mais dont la relation se terminera en mauvais termes, auront une relation tendue sur le plateau de tournage de ce troisième volet. Mais, tout comme leurs personnages respectifs dans la saga, les deux anciens amoureux réussirent à surmonter leurs problèmes du passé, surtout lorsque Keaton devra revenir à New York avec Pacino afin d'assister aux funérailles de la grand-mère de l'acteur décédée durant le tournage. Tous ces ennuis feront exploser le budget du film qui passera de 40 millions à près de 55 millions de dollars au final. Cela amènera au renvoi des coproducteurs Gree Frederickson et Fred Roos, ces derniers étant alors remplacés par Charles Mulvihill. À la mi-avril 1990, près de 5 mois après le début de la production, Coppola n'avait toujours pas décidé de la conclusion de son film. Suite à la conclusion du tournage, la post-production débutera et, à la fin d'octobre 1990, les monteurs travaillaient sans arrêt, se préparant à une projection exclusive pour les exécutifs de la Paramount. Puis, suite à une projection test au début de décembre 1990 à Seattle, Coppola apportera quelques modifications qui feront passer la durée du long-métrage de 170 à 162 minutes. Godfather Part 3 aura sa première à Beverly Hills le 20 décembre 1990 et sera présenté par la suite dans plus de 1823 salles sur le continent nord-américain le 25 décembre. Le long-métrage amassera plus de 20 millions de dollars au cours des 5 premiers jours de distribution. Il amassera un total de 6 millions de dollars le jour de Noël, ce montant étant le plus élevé pour cette journée de fête à son époque. Pendant 7 ans, le film a détenu ce record jusqu'en 1997, date à laquelle il a été dépassé par Titanic, qui gagnera 8,3 millions de dollars durant la journée de festivité. The Godfather Part 3 sera nominé pour 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur dans un second rôle, soit Andy Garcia, de la meilleure photographie, du meilleur montage de film, de la meilleure direction artistique et de la meilleure chanson, soit celle de Carmine Coppola et John Bettis pour Promise Me You'll Remember. Ce sera le seul film de la série à ne pas avoir nominé Al Pacino pour un Oscar en tant que meilleur acteur et ce sera également le seul film de la saga à ne pas remporter un seul prix durant la soirée des Oscars. Godfather Part 3 obtiendra plus de 7 nominations au Golden Globe, mais encore là, il ne remportera aucun prix. Sofia Coppola, quant à elle, remportera 2 Golden Raspberry Awards pour la pire actrice dans un second rôle et la pire nouvelle star, celle-ci établissant un nouveau record pour le pourcentage de votes reçu par un acteur ou une actrice dans l'histoire des Golden Raspberry Awards, soit plus de 65% des votes des membres des Razzies dans les deux catégories. Le compositeur et père de Francis Ford Coppola, Carmine Coppola, décédera le 26 avril 1991. Durant le tournage, Francis remarquera que son père avait quelques difficultés, ratant quelques cues musicaux durant certaines séquences. Carmine décédera moins de 4 mois après la première du dernier volet de la trilogie d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 80 ans. Coppola discutera d'un possible 4e film dans la franchise, mais Mario Puzo décédera le 2 juillet 1999 à l'âge de 78 ans d'une crise cardiaque avant de pouvoir l'écrire. Ce que Puzo écrira pour le 4e volet de la saga sera réutilisé par l'écrivain Edward Falco dans son livre The Family Corleone qui sera publié en 2012. Paramount poursuivra alors la succession de Puzo pour empêcher la publication du dit roman, provoquant une contre-poursuite de la part de la succession, alléguant, elle, une rupture de contrat. Le studio et la succession régleront leurs différends hors-cours, permettant ainsi la publication du livre, alors qu'en échange, les studios Paramount conserveront les droits pour d'éventuelles suites. Le scénariste Nick Marino avait, au début de 1990, sollicité et perdu un arbitrage dans lequel il affirmait mériter de voir son nom apparaître sur le générique du film, prétextant que Coppola et Puzo s'étaient approprié les personnages de Vincent Mancini et Zoe Zaza qu'il avait lui-même créés dans une version précédente du script qu'il avait écrit pour les studios. En 1994, Marino poursuivra de nouveau Coppola, Puzo et la Paramount pour diverses infractions, notamment celles de violation de droits d'auteur, rupture de contrat et l'utilisation non autorisée de son scénario original. Marino déclarera alors qu'il avait soumis un traitement non sollicité au studio Zotropé de Coppola en 1987 et Paramount a de nouveau refusé son travail en 1989. Malgré divers efforts pour obtenir un crédit d'écriture à l'écran, toutes les causes de Marino, au final, seront rejetées. Pour le 30e anniversaire du film, une version recoupée et restaurée du film, qui sera alors intitulée « The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone », aura une sortie en salle limitée le 4 décembre 2020, suivie d'une sortie numérique et Blu-ray le 8 décembre de cette même année. La restauration du nouveau montage sera entreprise par American Zotropé, la société de production fondée par Francis Ford Coppola et George Lucas. La restauration impliquait un travail minutieux de chacune des images du long-métrage de la version originale présentée en salle, mais également des scènes supprimées initialement au montage. Paramount et Zotropé ont mis plus de 6 mois juste pour retrouver tous les négatifs originaux. La production du processus de restauration se poursuivra malgré la pandémie de la COVID-19 qui avait alors interrompu le fonctionnement des grands studios. Le montage sera finalement réalisé à distance par American Zotropé et Paramount, Coppola supervisant tous les aspects de la restauration tout en travaillant sur le nouveau montage. La durée totale de cette version recoupée sera de 158 minutes par rapport aux 162 minutes du film original. Du côté des points forts, eh bien Coppola trouve une façon magistrale de conclure sa saga du crime organisé. Sa réalisation demeure ici somptueuse à partir d'un scénario qui sait habilement mélanger la fiction à travers des événements réels de notre histoire. Du côté de la distribution, Andy Garcia vole tout simplement la vedette ici, alors qu'il nous fait grand plaisir de revoir tous ces personnages vieillissants que l'auditoire admire depuis le début des années 70. Le réalisateur et Pacino réussissent à nous montrer un Michael Corleone transformé en une sorte de bossu de Notre-Dame, un être transformé en bête par ses vieux instincts de criminel et ses péchés d'autrefois qui pèsent lourd sur sa conscience et ses épaules et son combat continuel afin d'obtenir sa rédemption. L'intrigue est extrêmement complexe et démontre que le crime n'est pas seulement du côté de la pègre, mais que celui-ci a même corrompu les établissements les plus respectés de notre société. La grande finale opératique constitue le morceau principal du film qui se révèle être la parfaite conclusion à cette saga incroyable. Mais du côté des points faibles, quelque chose de magique a quitté ici ce produit. En effet, le film se veut beaucoup plus théâtral et shakespearien que les deux premiers volets, la réalisation étant parfois un peu lourde. De plus, la direction photo, quoique cherchant à rendre hommage aux deux premiers films, est ici beaucoup plus claire et vivante, enlevant tout l'aspect de violence et de claustrophobie qui avait été atteinte auparavant. Du côté de la distribution, Talia Shire fait de l'overacting, alors que Sofia Coppola est véritablement le point faible de cette production, l'actrice étant bonne par moments, mais étant incapable d'être efficace dans d'autres séquences dues à son manque d'expérience, celle-ci étant incapable de créer une magie avec le personnage interprété par l'acteur Andy Garcia, cette dernière étant supposée être en amour avec lui. Bien que Pacino soit excellent dans le rôle-titre, le scénario ne lui donne pas la chance d'être aussi réfléchi et méthodique, le personnage passant son temps à nous expliquer ses états d'âme. D'ailleurs, ce même scénario est quelque peu cacophonique par moments, celui-ci nous présentant des personnages qui sont au courant des actions de Michael, alors que d'autres prétendent qu'il s'agit d'histoires inventées. De plus, le scénario est écrit par chapitre, ce qui fait que par moment, les transitions du réalisateur manquent totalement de continuité, ce qui est déconcertant pour l'auditoire et rallonge de beaucoup le rythme du film. Du côté de la musique, eh bien, c'est Carmine Coppola, ce compositeur italien qui avait réalisé les trames sonores des films Apocalypse Now, Tucker, The Man and His Dream et New York Stories, qui travaille ici la partition musicale de Godfather Part 3. Je vous présente donc un extrait de cette trame sonore. Thank you.
projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Hello there. Give the demonstration of my new invention, the Goodies Machine. Special for patrons of this drive-in, the machine turns out delumptious hot doggies one after the other. Und thirst-quenching sodas also. Gives popcorn of the most tasty kind, plain and buttered. Candy too, crunchy and dandy. Steaming hot coffee and ice cream too. These goodies are at a snack bar just waiting for you.
Andrew, why do you treat me so disrespectful? When you park outside my house, I let it go. But when I find this on my turf, this is now a blood vendetta passed from father to son.
At We Buy Any Home, we could buy your home in just 7 days. No fees, no commission, no hassle. Cash offer in 24 hours. We Buy Any Home. We'll get you moving.
Here's a new taste treat. The corn dog. Plump, juicy wieners are dipped in a thick, golden, southern-style corn batter that seals in all their freshness and flavor. If you like hot dogs, you'll love corn dogs. Everybody does. Try a corn dog with your favorite beverage. At the refreshment corner now. Corn dogs. See your next movie completely free.
And now, on with the show.
Listen here, Bob. Paramount is going to come crashing down. We need hits.
You've read The Godfather, right?
Godfather.
Sure, who hasn't?
We've been all over town. No one wants to make this movie. So I need you to produce it. Get going.
I can't believe you told me you read it. You better read fast on the plane.
Oh, yeah, that's big.
The Godfather
is bringing us too many problems.
You want me to take care of it?
Gangster movies are dead.
This is not just some gangster film.
We need someone who understands Italians.
For instance, Ford Coppola. He's got a great vision.
We have to put this in the picture.
A scene about gangsters arguing over sauce?
No. A scene about family arguing over sauce.
I got no cast.
Do you think Pacino is actually a possibility?
Cut it!
No Pacino.
Marlon Brando is interesting.
He's a nutcase.
Can one thing go right with this picture?
You want to make a movie that's going to make my people look like animals, and that ain't going to happen.
I respect what you're saying, and I think I have a solution to our problem.
You're still going to try and make this thing?
I got no choice.
I took a chance on you, and you stabbed me in the back.
I won't judge you if you need to walk away from this.
I'm not running either.
This is what it's all about. The excitement. The thrill. That's movie magic, baby.
The Offer est un drame biographique qui a été diffusé sur les ondes Paramount Plus du 28 avril au 16 juin 2022. Cette télésérie américaine est d'une durée de 586 minutes. Malheureusement, il m'a été impossible de trouver le budget de production de la série, ni non plus d'avoir les cotes d'écoute pour le dit programme. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve les metteurs en scène Dexter Fletcher, ce réalisateur britannique qui avait réalisé les films Wild Bill, Eddie the Eagle et Rocketman, Adam Arkin, ce réalisateur américain qui avait réalisé les films Outlaw Country et quelques épisodes de la série Get Shorty the Series, Colin Boxey, ce réalisateur britannique qui a réalisé les films Death Merchant, Dealers et Nightmare Street, et finalement, Gwyneth Horder-Payton, cette réalisatrice américaine qui a travaillé sur les séries Big Sky, 911 et Tyrant. Du côté de la production, eh bien, c'est Dalia Ibelop-Taiti, cette productrice russe qui a travaillé sur le film Ghost. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes Michael Tolkien, ce scénariste américain qui avait travaillé sur le film Gleaming the Cube, Deep Impact et The Player, Nikki Toscano, cette scénariste américaine qui a travaillé sur les films Behind Enemy Lines, Red Zone et le film pour la télévision Revenge, Kevin G. Hines, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Deception, Prime Suspect et la récente série télé Perry Mason, Leslie Grief, ce scénariste américain qui a travaillé sur la série Walter Texas Rangers ainsi que sur les films Scorn et Funny Money, Russell Rothberg, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Legacy et Nightfall, et finalement, Mona Mira, cette scénariste perse qui avait travaillé sur la série Weakest Link et A Little Late with Lily Singh. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Miles Teller, Matthew Good, Dan Fogler, Bern Gorman, Colin Hanks, Giovanni Ribisi et Juno Temple. L'histoire de cette série nous ramène à la genèse du film oscarisé The Godfather, qui a été mis en scène par le metteur en scène Francis Ford Coppola, raconté du point de vue du producteur de film Albert S. Rudy. Ce sera la présidente du poste de streaming Paramount Plus, Nicole Clemens, qui contactera le scénariste et producteur Michael Tolkien afin de savoir si ce dernier serait intéressé à développer pour eux une mini-série sur la réalisation d'un des plus grands films de gangsters de toute l'histoire d'Hollywood, The Godfather. Au même moment, Clemens approchera également la scénariste et productrice Nikki Toscano afin de s'associer avec Tolkien sur ce projet. Alors que Toscano embauchera les scénaristes Russell Rothberg, Kevin G. Hines et Mona Mira, Tolkien, alors à l'aube de ses 70 ans, rencontrera le producteur canadien Albert S. Rudy et passera plus d'une semaine en sa compagnie afin de l'interviewer et ainsi monter un document complet de toutes les anecdotes et histoires de ce dernier en rapport avec la production de The Godfather. Impressionné par la rencontre, c'est à ce moment que le producteur deviendra persuadé de la faisabilité de la mini-série. Michael Tolkien était principalement connu pour son travail de scénariste sur les films The Player en 1992, Deep Impact en 1998, Dawn of the Dead, la version de 2004, ainsi que son travail sur la mini-série de Showtime Escape at Dannemora, produite en 2018. Du côté de Nikki Toscano, cette dernière avait travaillé sur les téléséries Revenge de 2011 à 2013, Bates Motel en 2014 et 24 Legacy en 2017. Rapidement, l'équipe d'écrivains devra prendre une ligne directrice car la majorité de l'information acquise sera parfois en contradiction avec d'autres sources. Cela forcera l'équipe à ne prendre qu'en considération la version du producteur Albert S. Rudy et de se concentrer sur les personnes impliquées dans les souvenirs de ce dernier et de leurs différentes motivations à mener à terme ce projet cinématographique. Se concentrant sur l'univers de la Paramount et de la pègre des années 1970, les deux producteurs embaucheront le directeur de la photographie Salvatore Totino, avec qui ils discuteront de la façon que la caméra devait se déplacer et quel genre de lumière utiliser pour bien représenter cette époque datant d'un demi-siècle. Le projet sera annoncé en septembre 2020 par Paramount, qui précisera alors que la série limitée de 10 épisodes sera diffusée sur les ondes de leur nouveau poste de streaming Paramount Plus en avril 2022. Deux mois après cette annonce, l'acteur Arnie Hammer sera choisi pour interpréter le personnage de Albert Rudy, mais dû abandonner le mois suivant suite à des allégations d'agression sexuelle et de viol portées à son égard. Il sera alors remplacé par l'acteur Miles Teller en mai 2021, un mois après l'embauche du réalisateur Dexter Fletcher. En juin, ce sera au tour des comédiens Matthew Good, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Dan Fogler et Juno Temple de se joindre à la production. Le mois suivant, les comédiens Burt Gorman, Charles Bloodhorn et Justin Chambers seront embauchés, alors qu'Eric Balfour, Michael Gandolfini et Zach Score compléteront la distribution en octobre. Le tournage débutera le 12 juillet 2021, mais devra être mis en pause 2 semaines après avoir débuté parce qu'un des membres de l'équipe de production fut déclaré positif à la COVID-19. Ce sera une des multiples fois où la production sera mise en pause à cause de la pandémie, ces constants arrêts coûtant un peu moins de 6 millions de dollars à la production au total. Un de ces arrêts se produira lorsque l'acteur Miles Teller testera positif à la COVID-19, ce dernier ayant refusé de se faire tester et vacciner selon les directives de la compagnie Paramount. Finalement, l'acteur acceptera de se faire vacciner afin que puisse continuer le tournage et que ce dernier puisse également conserver son emploi. Le tournage se fera entièrement à Los Angeles, en Californie, et se situera principalement sur les lieux des studios Paramount et de la Universal. En août, les projets pour tourner les séquences au légendaire hôtel Château Marmont de Los Angeles seront abandonnés après avoir appris l'existence d'un conflit de travail entre la direction de l'hôtel et ses employés. Le Château Marmont est un hôtel que les célébrités favorisaient depuis des décennies. C'est à cet endroit que le défunt batteur de Led Zeppelin, John Bonham, avait conduit une moto Harley-Davidson dans les couloirs de l'établissement dans les années 1970. Ce sera également dans l'un des bungalows de cet établissement que l'acteur John Belushi mourra d'une overdose en 1982. Malgré une multitude de problèmes et des réécritures constantes afin de permettre de respecter le budget d'origine, le tournage se terminera le 12 janvier 2022, ne laissant que 3 mois pour compléter la post-production. Les 3 premiers épisodes de la série seront alors présentés le 28 avril sur le poste de streaming de la Paramount. Les critiques seront alors mitigées, prétextant que beaucoup d'événements démontrés dans la série n'étaient pas véridiques et que ceux-ci avaient été changés pour des raisons de dramatisation. Dans ces événements était citée la création du personnage fictif de Barry Lapidus, interprété par l'acteur Colin Hanks, ainsi que le fait que la série, qui se passe en 1971, nous présente le personnage réel de Tommy Lucchesi. Quelque chose d'impossible puisque ce dernier était décédé en 1967, soit 4 ans avant les événements de la mini-série. Un autre moment qui dérangera les critiques sera ce segment dans lequel le producteur Bob Evans, interprété par Matthew Good, était catégoriquement contre la présence de l'acteur Al Pacino dans le rôle de Michael Corleone, car ce dernier n'était pas un acteur connu. La réalité des faits fut que Evans n'était pas convaincu de l'apparence du comédien qu'il trouvait trop petit pour le rôle et pas assez intimidant. D'autres libertés au niveau des faits réels seront également reprochées au créateur de The Offer, notamment l'intrigue de Mikey Cohen, qui n'avait aucune relation avec le personnage de Joe Colombo dans la réalité, puisque Cohen était toujours en prison pour évasion fiscale durant cette période. Bien que Brando fût intéressé au projet grâce à une lettre de l'auteur Mario Puzo, ce sera véritablement les studios Paramount qui exigeront de Coppola que ce dernier réalise un test écran privé avec l'acteur. De plus, bien que la compagnie Gulf & Western désirait vendre les studios Paramount vers la fin des années 60, ce ne sera pas le cas au moment de la production du Godfather. Finalement, Rudy et Coppola n'étaient pas en très bons termes pendant le tournage et c'est Evans qui aurait spécifié que Rudy n'aurait aucun lien avec le projet du Godfather 2, une décision qui ne sera finalement pas prise par Rudy lui-même, mais provenant des exécutifs de la Paramount. Cela n'empêchera pas cependant le producteur québécois à produire The Longest Yard en 1975 pour ces mêmes studios avec dans le rôle-titre Burt Reynolds. Mais, d'un autre côté, certaines critiques salueront l'audace des scénaristes qui présenteront des événements marquants du tournage de The Godfather, notamment l'implication de l'homme de la pègre Joe Colombo dans la réalisation du long-métrage en raison de l'amitié d'Albert Rudy avec le criminel. Cela amènera effectivement à l'embauche de membres de la mafia sur le plateau pour jouer des rôles de figurants et jouer de petits rôles pour aider à garantir que la qualité reste authentique. Il est également vrai que Rudy autorisera la Ligue italo-américaine des droits civiques de Colombo de revoir le scénario et de suggérer des modifications en leur nom. De plus, il y a eu véritablement une altercation verbale entre l'auteur Mario Puzo et le chanteur Frank Sinatra, car ce dernier était persuadé que le personnage de Johnny Fontaine était inspiré de sa personne. Finalement, aussi insensé que cela puisse paraître, la tête coupée d'un cheval, montrée dans le lit du président des studios de cinéma Waltz, était une véritable tête de cheval, ce qui vaudra à Coppola la réception de plusieurs lettres passionnées de militants pour les animaux qui pensaient que les cinéastes avaient tué un cheval pour la scène. Dans la réalité, Coppola confirmera qu'un membre de la production s'est rendu dans un abattoir où des chevaux étaient détruits pour de la nourriture pour chiens, qu'il a effectivement choisi un cheval qui ressemblait au pur sang prisé de Waltz et a demandé, quand le moment de son exécution sera venu, que la tête de l'animal soit conservée et envoyée au cinéaste pour le tournage de la scène. Coppola, étant visiblement insatisfait de la tête artificielle qui avait été réalisée par les concepteurs d'effets spéciaux, mais qui sera tout de même utilisée dans la scène où l'on voit de face Waltz regardant la tête de l'animal. Au final, certains personnages marqueront véritablement l'histoire d'Hollywood par la suite. Ce sera le cas de l'assistante d'Albert Rudy, Betty McCart, qui allait devenir agent de talent et manager pour des vedettes telles que Tom Selleck, George Clooney, Maureen O'Hara, Anthony Quinn et Billy Dee Williams. Elle décédera le 16 août 2013 des suites d'une défaillance cardiaque à l'âge de 81 ans. Robert Evans reste l'incarnation d'un slickster hollywoodien et a fait l'objet du documentaire de 2002 « The Kid Stays in the Movie ». Il débutera sa carrière dans une entreprise prospère de vêtements pour femmes avec son frère avant d'être repéré lors d'un voyage d'affaires en 1956 par l'actrice Norma Shearer, qui était persuadée qu'il devait jouer le rôle de son défunt mari dans le film « Men of a Thousand Faces ». C'est ainsi qu'il entamera une brève carrière d'acteur au cinéma avant de se lancer dans la production de films à la place. Il sera placé à la vice-présidence de la Paramount Pictures en 1967 et améliorera la fortune de la compagnie grâce à une série de films acclamés tant au niveau critique que commercial. Il quittera alors ses fonctions en 1974 avant de produire des films à son compte. Mais en 1980, la carrière et la vie d'Evans connaîtront un ralentissement après avoir plaidé coupable de trafic de cocaïne et produisant par la suite deux flops financiers, soit The Cotton Club et la suite de Chinatown de Two Jakes. Ce sera en 2003 que Evans produira son dernier film avec How to Lose a Guy in 10 Days. Marié plus de 7 fois durant sa vie, le producteur américain subira une série d'accidents vasculaires cérébraux et se retrouvera alors paralysé du côté droit et complètement incapable de parler. Ce sera grâce aux encouragements de son ami Sumner Redstone qu'Evans retrouvera sa capacité de parler et est ensuite retourné à la production. Il prendra sa retraite en 2016 car il avait de la difficulté à se déplacer, l'homme se devant d'utiliser une canne pour ses promenades. Evans décédera à Beverly Hills, en Californie, le 26 octobre 2019, à l'âge de 89 ans. Pour Francis Ford Coppola, le réalisateur tirera sa révérence du milieu cinématographique suite à l'échec critique et commercial de son film de 2011, Twixt. Coppola ne voulait plus faire de films commerciaux et était désintéressé par le style de cinéma que désiraient les grands studios. Cependant, en avril de 2019, le réalisateur annoncera son retour sur un projet intitulé « Megalopolis », projet qu'il développait depuis de nombreuses années. Ce film racontera l'histoire des conséquences et la reconstruction de New York après une méga-catastrophe. Au moment de la réalisation de cette émission, Coppola visait à débuter le tournage à l'automne 2022 et la distribution devait être composée des acteurs Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, John Voight et Laurence Fishburne. Finalement, l'un des derniers personnages importants de la réalisation du Godfather en 1972 sera l'homme de la pègre Joseph Anthony Colombo. Né à New York, où son père était l'un des premiers membres de ce qui était alors la famille du crime Profani, ce sera en 1963 que le jeune homme se fera un nom dans le monde du crime. En effet, durant cette période, Colombo était un tueur à gages qui sera alors approché par le chef de la famille du crime Bonanno, Joseph Bonanno, et son associé Joseph Magliocco pour assassiner plusieurs rivaux de la Commission, une association de la mafia italo-américaine formée en 1931. Au lieu d'éliminer ses cibles, Columbo révélera le complot à ceux-ci, qui épargneront alors la vie de Magliocco, mais le forceront à prendre sa retraite, tandis que Bonanno, lui, s'enfuira au Canada. En récompense pour s'être retourné contre son patron, Columbo recevra alors la direction de la famille Profaci. En 1970, Columbo créera la Ligue italo-américaine des droits civiques et organisera cette année-là le premier rassemblement italien de la Journée de l'Unité qui aura lieu à Columbus Circle afin de protester contre la persécution fédérale de tous les Italiens. Ce sera au printemps 1971 que la Paramount Pictures débutera le tournage de Godfather. En raison de son sujet, le film se retrouvera confronté à une grande opposition des Italo-Américains au tournage à New York. Cependant, après que le producteur Albert Rudy ait rencontré Columbo et accepté de supprimer les termes « mafia » et « Cosa Nostra » du long-métrage, la Ligue coopérera alors pleinement. En 1971, Columbo sera abattu par Jerome Johnson lors du deuxième rassemblement italien de la Journée de l'Unité à Columbus Circle, parrainé par la Ligue italo-américaine des droits civiques. Johnson sera immédiatement tué par les gardes du corps de Columbo, qui demeurera paralysé suite à la fusillade. Ce sera finalement le 22 mai 1978 que Columbo décédera d'un arrêt cardiaque. Eh bien, du côté des points forts, The Offer est une superbe fresque sur la réalisation du film de The Godfather qui nous plonge dans les coulisses fascinantes de la création et de l'univers du cinéma des années 70. La distribution est ici parfaite et demeure la principale force de cette série, les interprètes nous donnant des personnages solides et fort attachants. D'ailleurs, chaque acteur interprète dans la justesse les différents personnages responsables de la création de cette œuvre magistrale du film policier. Les dialogues sont mordants et intelligents, tout comme l'humour qui est tout simplement croquant. La force des personnages féminins est ici ce qu'il y a de plus frappant, le scénario en profitant pour nous présenter l'implication importante des femmes sur ce projet de film. Du côté de la direction photo, celle-ci est exceptionnelle, tout comme cette reproduction d'époque qui nous plonge dans cette période du nouveau cinéma. De plus, ce sont véritablement les aspects techniques de la création cinématographique de l'époque qui sont fort intéressants ici. Le scénario, prenant le temps de nous expliquer la mince ligne existant entre la réalisation d'une œuvre artistique et les buts monétaires derrière chacune des décisions prises. Même si la série n'invente rien sur le concept du making-of, elle comporte assez de charme, que ce soit au niveau de sa distribution, de ses dialogues ou de sa reconstitution historique, qui saura séduire à coup sûr les cinéphiles et les curieux. Mais du côté des points faibles, eh bien, le fait que cette série dure tout près de 10 heures amène son lot de problèmes, notamment au niveau de l'histoire, qui est surchargée par une série de sous-histoires parallèles personnelles des différents personnages qui ralentissent grandement le rythme de la série limitée et alourdissent inutilement l'histoire. On aurait pu couper une à deux heures faciles sans problème, mais par chance, le jeu incroyable des comédiens nous permet de passer outre ces scènes. De plus, certains détails de l'histoire sont réarrangés pour la dramatisation de la série, ce qui pourrait empêcher le spectateur de trouver crédible cette histoire tout à fait incroyable. Du côté de la musique, eh bien, c'est la compositrice britannique Isabella Summers, elle qui a travaillé sur les trames sonores des films Paradise City, Sex Life, Physical, Panic et Call Jane. Je vous présente ici la musique thème de cette mini-série The Offer. Thank you. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm à côté de Godfather Part 3, 3. Moi, j'y vais avec un 4. Je pense que cet aspect théâtral et shakespearien démolit quelque peu la magie qu'on avait dans les deux premiers films. Aussi le fait que Pacino passe son temps à se parler à lui-même et à expliquer ses états d'âme. Ça alourdit l'histoire pour rien. Je trouve que c'est dommage. On a perdu quelque chose de magique dans ce troisième film qu'on avait dans les deux premiers. Ça empêche quand même que c'est une excellente conclusion à cette franchise magistrale. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour des scènes, bien sûr, de violence. Du côté de The Offer, eh bien, du côté de Mediafilm, il n'y a pas vraiment de cote puisque c'est une mini-série qui est passée en streaming sur le poste de Paramount+. Moi, j'y vais avec une cote 3. Donc, je considère vraiment que l'interprétation, les dialogues, la façon que le scénario est écrit, c'est vachement intéressant. Le visuel également. Donc, c'est quelque chose qui mérite fortement d'être vu. Du côté de la régie du cinéma, on cote The Offer général. J'y vais également pour une cote pour tous, malgré un contenu quand même quelque peu mature et certaines scènes de violence. Du côté de la disponibilité en format DVD, eh bien, il vous est possible de vous procurer The Godfather Part 3 en DVD et en Blu-ray disc dans sa version traditionnelle ou encore dans ce qu'on appelle le Coppola Restoration. Donc, vous pouvez également avoir le coffret des trois films de The Godfather dans lequel vous avez les versions originales ainsi que la Coppola Restoration où les trois films ont été retravaillés. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez trouver en français, en anglais, en DVD et en Blu-ray sans problème. Du côté de la trame sonore de The Godfather 3, eh bien, vous êtes capable d'avoir ça en CD, en cassette et en vinyle. Ça avait été distribué le 18 décembre 1990 sous l'étiquette Columbia Records. Vous avez également, le 13 mars 2001, une édition Godfather Trilogy Part 1, 2 and 3 30th Anniversary qui était sortie sous l'étiquette Sylvia America où vous retrouviez les meilleurs segments musicaux des trois films. Du côté de The Offer, eh bien malheureusement, The Offer, au moment où cette émission est réalisée, n'existe pas en DVD ou en Blu-ray disc. C'est quelque chose que vous pouvez trouver soit sur Amazon Prime ou encore vous allez tout simplement sur Paramount+, où vous avez bien sûr la chance d'avoir les trois films de The Godfather ainsi que cette série de 10 épisodes. Au niveau de la trame sonore, eh bien, c'est Paramount Music qui a distribué le 1er juillet 2022 ce CD comprenant 61 minutes de musique qui ont été composées justement par la compositrice britannique Isabella Summers. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.